Bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette chronique littéraire où vous retrouverez romans, policiers, trieurs et ainsi une biographie. Mais avant de vous présenter cette sélection, nous désirons vous donner quelques informations. La 19e édition des Rencontres littéraires en Savoie-Mont-Blanc se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 juin à Aix-les-Bains, dans ce merveilleux écrin qui est l'abbaye de Hautecombe. Si vous êtes en vacances par là-bas, ou tout simplement si la littérature vous intéresse, retrouvez les auteurs à cette occasion. Également, c'est la période des prix et je vais vous donner certains ouvrages qui ont été publiés en 2019. Sachez que « Femmes qui courent » de Gérard de Constance, lauréat du prix Historia du roman historique, lui a été remis le jeudi 18 avril. « Les Mal-aimés » de Jean-Christophe Tixier, lauréat du prix Méditerranée Polar du premier roman 2019, le prix lui sera remis le vendredi 14 juin à Perpignan. « Le ciel sous nos pas » de Léla Barsen, lauréat du prix Méditerranée du premier roman, également. Ce prix sera remis toujours à Perpignan durant le week-end du 4 au 6 octobre. Des titres que nous vous avons proposés d'ailleurs et qui ont été sélectionnés par nos soins, vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans nos archives sonores. Également, une information de dernière minute, la brocante qui devait avoir lieu sur l'avenue du Prado, prévue le 17 mai, annulée, a été reportée pour ce dimanche 2 juin. Alors, beaucoup de bonnes affaires. C'est une brocante qui est faite avec le centre d'intérêt de quartier de Marseille, Castellane, Prado et rue de Rome. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Bien, à présent, écoutez et notez notre sélection pour cette semaine. On ne se lasse pas des ouvrages qui relatent les fastes d'une période où intellectuels, artistes et grands maîtres de la couture foisonnaient et qui ont donné une pulsion différente à la société et surtout aux femmes. L'auteur a limité dans le temps la vie de cette créatrice de mode qui a donné vie et différence au port de la femme. Madeleine Mancier-Berthaud a su s'intégrer et s'imprégner des atmosphères et des paysages de son enfance afin de transporter le lecteur au fil de son imagination. Mais c'est surtout la grande histoire qui lui offre des sujets et des personnages qu'elle se plaît à incarner avec un véritable souffle romanesque. Ici, résultat flamboyant. Je vous propose d'ailleurs mon coup de cœur pour ce titre. Mademoiselle dite Coco. Gabrielle Bonheur-Chasnel est devenue la grande prêtresse de la mode et n'a plus rien à prouver. Chacune de ses créations déclenche tout à la fois scandale et engouement. Mais celle, que l'on surnomme Coco, n'en demeure pas moins femme et ne peut se consoler de la perte tragique de son amant. En cette époque de bouillonnement intellectuel, elle retrouvera, à force de talent, le goût de la vie pour s'imposer comme l'une des plus grandes figures du XXe siècle. Elle fera figure du premier mécène et aidera une compagnie de danse pour leur permettre de lancer leur ballet. Fera également figure d'innovatrice dans le monde très fermé du parfum et grâce à un nez, elle aidera à la création et mettra en vente le fameux numéro 5 de Chanel, sans parler du premier pantalon porté par les femmes. Surprenante, toujours entourée, elle fut et demeurera la reine de la mode. Ici, atmosphère, sentiment, romantisme, vous retrouverez chez elle une volonté de s'imposer dans son métier et sa création qui passera avant tout. À chaque saison, elle désirait donner une nouvelle idée à la mode, à la femme. Mais, le saviez-vous, Coco Chanel a failli devenir duchesse de l'Empire britannique. Le duc milliardaire Winchester était follement épris de cette femme, incomparable à toutes celles qu'il avait connues. Un réel plaisir de lecture. Sentiment, audace, romantisme, tout est presque dit. Je vous propose ces 600 pages qui sont absolument succulentes et qui ont paru aux éditions Manpoche, 8,90€. Superbe également, haletant, un thriller palpitant que l'on ne peut quitter. L'histoire vous accapare immédiatement. L'auteur né à Anvers est scénariste et auteur de romans à suspense. Chroniqueur également, il possède toute la maîtrise de l'art du suspense. Je vous propose son titre « Code Salamandre » par Samuel Delage. Lorsque son professeur de l'école du Louvre décède, Yvan Sauvage, expert en art et commissaire-priseur, se retrouve légataire et tout à fait à son insu, propriétaire d'un secret prodigieux. le vieil homme était sur le point de déchiffrer un code menant à l'un des trésors les mieux gardés du règne de François Ier. Yvan n'a alors de cesse de résoudre l'énigme. Il sera aidé d'ailleurs par Marion, jeune étudiante à la Sorbonne. Elle entre dans le jeu et le duo se lance avec une énergie farouche dans le décryptage des messages codés que recèlent les châteaux, statuaires et monuments édifiés par les architectes de l'époque dont Léonard de Vinci. Ils explorent les itinéraires dans la cartographie occulte et étonnamment précise de la Renaissance a pu fixer. Cependant, tout à leur quête, leur recherche, les deux jeunes gens sont inconscients du danger qui les guette. De plus, un homme épie leur moindre geste et fait sous les ordres d'un mystérieux commanditaire. Mais aussi, il s'agit d'un individu totalement imprévisible, mu par des pulsions meurtrières. Ainsi, la recherche érudite et la résolution du code Salamandre pourraient bien déclencher une traque à la fois financière et également sanguinaire. 370 pages qui vous projettent dans une très belle énigme où histoire et histoire contemporaine se mêlent harmonieusement. Magnifique, paru aux éditions Polar de Boré, 8 euros. L'ancien directeur Universal Musique Classique, ex-président des Victoires de la Musique Classique, porte un regard noir sur le milieu qu'il connaît parfaitement. C'est un auteur. Et les instruments de musique peuvent également se transformer en armes de crime. Ici, il signe son premier roman, qui nous séduit par son intrigue et la chaleur de certains de ses personnages. Un équipage chaleureux que nous met en scène Yann Olivier. Le titre de ce livre, En attendant Boulez. Une société, grand major de la culture et du divertissement, vient d'annoncer un lancement d'un logiciel qui promet de révolutionner l'économie culturelle et la création musicale. Elle aurait mis au point le projet Chopard, faisant appel à l'intelligence artificielle qui se substitue à l'homme pour créer et produire de la musique, s'inspirant seulement ou simplement d'œuvres majeures de musique classique en prononce essentiellement des phrasés musicaux et au rendu différent. Le soir de la présentation officielle de cet outil totalement incroyable, un concert est donné à la Philharmonie. Mais un incident de taille bouleverse la programmation, ou tout au moins la non-présence d'un des plus grands musiciens invités à participer à cette soirée inaugurale et magistrale. En effet, le corps sans vie de la plus célèbre pianiste du moment, une Chinoise, est découverte sans vie, décapitée, et la tête de cette dernière est retrouvée beaucoup plus tard sur le buffet de clôture donné pour les VIP et les politiques invités à la soirée. Au préalable, le concert a pu avoir lieu cependant, car une autre jeune pianiste a pu la remplacer, mais commence un début d'une affaire plus que troublante qui va bouleverser le milieu si feutré de la musique classique. Car peu à peu, les morts se suivent et les suspects semblent nombreux. Et même Bruno Prana, qui dirige l'enquête avec un jeune lieutenant prénommé Jade, disparaît, laissant la jeune femme seule sur l'affaire. Celle-ci réagit divinement. Intelligente, musicienne, Jade Valois dirigera une des enquêtes les plus complexes, où se mêlent divergences entre musique classique, politique et médias. L'auteur écrit d'une façon remarquable et nous propose des personnages, parfois hauts en couleur, qui savent pourtant se débattre contre la vie et la mort, et quelquefois même la boisson. Nous avons adoré ces 390 pages environ qui ne se lâchent pas, car l'intrigue est fort prenante. Il est paru aux éditions Plomb, 19 euros. Et puis aussi ce texte remarquable et fort intéressant. Le lecteur est captivé par son histoire policière, certes, mais aussi par toutes les situations qui règnent autour de cette dernière, qu'elles soient politiques, artistiques ou conflits de société, et qui amènent parfois des passages empreints d'une poésie incroyable, des épisodes émotionnels, grâce aussi à la galerie des personnages qui joue ici un rôle primordial. L'auteur historien, spécialiste du 19e et 20e siècle, Philippe Grandcoin, auteur de différents ouvrages déjà publiés, nous livre avec avantage la suite des aventures d'Hippolyte Salvignac. Le titre de son livre, Le Faubourg des Diaboliques, une enquête d'Hippolyte Salvignac par Philippe Grandcoin. Printemps 1907, Paris, dans une France en plein bouleversement, l'antiquaire et enquêteur Hippolyte, fils du notaire, est de retour. Accusé d'avoir assassiné le mari de son ancienne maîtresse, quitté pourtant depuis deux mois. Il devra batailler pour prouver son innocence, et cela grâce à l'aide d'un ami, Jules Lerouet, inspecteur de police qui l'a aidé dans une affaire criminelle il y a peu. Jules arrive à le faire libérer, et son associé Bourdet, qui s'occupe de la boutique d'antiquités et qui a transformé un tant soit peu cette dernière en un repère pour les avant-gardes en matière picturale. C'est ainsi qu'accompagné de ce dernier, Hippolyte fait connaissance de ses artistes et de ses nouvelles aventures le mène à Montmartre, au bateau Lavoir, où il rencontre André Derain, Vlaminck, Pablo Picasso, Fernand Léger, entre autres. Il mène une enquête parallèle pour son ami Jules, qui désire connaître ses origines, puisque celui-ci est déclaré de père inconnu. Mais sa mère a reçu régulièrement une rente mensuelle. Ainsi, il reverra son amie d'enfance et de cœur, Adélaïde, veuve maintenant, qui l'embarque dans une frénésie d'écriture. Hippolyte plonge au plus profond des turpitudes des élites et le voilà sillonnant un pays aux puissants contrastes. Ici, Sologne, Chaumière, Château, terroir traditionnel du Quercy, Midi languedocien, ravagé par un fléau, une grande crise viticole, tout peut se retrouver. L'auteur, avec une qualité de documentaliste à ne plus prouver et un réel sens de l'intrigue, nous fait revivre un moment d'une extraordinaire intensité où se forge avec fracas la modernité du XXe siècle et aussi la création des splendides demoiselles d'Avignon. Mais survole cette économie déjà mondialisée qui est confrontée aux colères populaires. Le lecteur rencontre beaucoup de défis avec les figures historiques que l'on croise au fil des pages, plus que captivantes. Magnifiquement bien documentée, l'histoire s'imbrique peu à peu et le lecteur est totalement addictif. 290 pages à surtout ne pas faire l'impasse, paru aux éditions de Boré, 19,90 €. Si l'auteur, médecin urgentiste au CHU de Nice et de Menton, capitaine pompier et l'auteur de plusieurs romans et de témoignages sur le métier justement d'urgentiste, ainsi que sur des ouvrages sur les histoires et l'évolution de la médecine, ce suspense musclé au dénouement inattendu est son premier polar. Et il excelle à créer et développer des ambiances et des scènes qui marquent les esprits de bout en bout. Le titre de son livre, Un menu pour l'enfer, de Marc Magro. Le romancier nous plonge dans l'univers des chefs étoilés. 13 heures, une exposition pulvérise un prestigieux palace de Monaco. Accident, sabotage, attentat. Le restaurant recevait des chefs d'État réunis dans la ville pour un sujet brûlant. Le bilan est terrible. Parmi les victimes, les plus hautes instances sud-américaines réunies pour ce colloque sur le réchauffement climatique. Seul rescapé un jeune homme qui œuvrait en cuisine près du grand chef étoilé. Le matin même, Alain Viard, chef étoilé dans les cuisines du palace, passe un fort étrange appel téléphonique à son ex-épouse, mentionnant « Je vais mourir ». Quelques heures plus tard, il convoque Jérémy, son meilleur apprenti, et lui confie un secret lourd de conséquences avant de disparaître dans l'explosion. Il lui fait part d'une salle avec des écrans qui permettent de surveiller tout ce qui se passe en cuisine, au détail près. Cependant, à l'autre bout du monde, entre la Bolivie et le Pérou, l'ethnobotaniste Yvan Delorme, voisin de Jérémy et ex-amant de l'épouse de Viard, entreprend un voyage initiatique avec un chaman et son fils. Celui-ci, mondialement connu pour ses thérapies originales, pourrait bien être une pièce manquante du puzzle. C'est ce que nous allons découvrir avec le commissaire Valandrin et son équipe haute en couleur. Entre gastronomie, chamanisme, finance, crime organisé, mouvements mafieux, ils découvriront que mensonges et manipulations. On a plaisir à suivre cette intrigue relativement complexe et à l'évolution de l'énigme fort bien ficelée. La fin surprendra plus d'un lecteur. Je vous propose ces 480 pages qui ont paru aux éditions de Boré, 21 €. Toujours dans la même série, l'auteur Thierry Berlanda a écrit de nombreux ouvrages de philosophie et des thrillers. Aujourd'hui, il nous emporte avec un texte sanguinolent dans une histoire terrifiante où meurtre de femme et provocation de troubles profonds chez l'enfant nous laisse un tantinet pantois. Le titre de son livre, L'insigne du boiteux de Thierry Berlanda. À quelques mois de la retraite, le commandant Filière se retrouve à la tête d'une affaire, comme il en existe fort peu. Un réel tueur, psychopathe, tue des mères de famille sur le regard de leurs enfants. En général, ces derniers sont seulement âgés de 7 ans. De quoi effrayer et défrayer la chronique et attiser les peurs enfouies. Afin de l'aider sur l'enquête et sur l'affaire, le commandant fait appel au professeur Barreuil et à l'une de ses anciennes étudiantes, Jeanne, elle-même mère d'un enfant. Car il faut arrêter le psychopathe avant que celui-ci ne cause de nouvelles victimes, déjà beaucoup trop nombreuses. Les crimes sont odieux, cruels, mais que cachent vraiment ces horreurs ? Alors que les indices commencent à apparaître, que les éléments commencent à se rejoindre, le meurtrier gagne lui aussi du terrain. Bientôt, ce sera Jeanne qui sera dans sa ligne de mire. Les enquêteurs devront alors faire preuve de courage, de force aussi pour sauver la jeune femme et mettre un terme à ses tueries. 335 pages parues aux éditions Polar de Boré, 7,50 €. Et puis, je vous conseille vivement de vous pencher, de lire ce petit bijou des textes de Josiane Balasko. Il vient tout juste de paraître. Un recueil de nouvelles à la fois drôle, tendre, amère, où parfois la fiction tient un rôle primordial. Cette actrice, largement plébiscitée par les Français, artiste aux multiples facettes et talents, jette un regard sensible et acerbe sur notre temps, où, je dois le mentionner, pour notre plus grand bonheur, les animaux sont présents. Son titre, Jamais plus, de Josiane Balasko. Elle nous met face à plusieurs nouvelles, 8 au total, qui interrogeront notre part d'humanité. La première, Jamais plus, un texte qui définit le pouvoir d'un jeune kiné qui possède le don de parler aux animaux. Elle vit avec son chien, mais un corbeau va la mener sur la piste d'une étrange propriété où tout n'est pas clair. Ensuite, il y a le boss. Et si vous vous mettiez dans la tête de votre chien, à la première personne bien entendu, le chien mentionne ses impressions. Un texte qui pourrait être repris par la SPA, car vu que c'est une société de protection animale, ce texte est absolument magnifique. Puis viennent les explorateurs, une bande d'esprits qui commence à en avoir assez d'être dérangés en permanence par les chasseurs de fantômes. Ensuite, vous avez Adopt-Num Zombie Com, comment se débarrasser des zombies qui pullulent sur Terre en leur donnant du sucre et des câlins peut-être. Toujours sous la même forme de style, faites pousser un extraterrestre. Un collectionneur de pif gadgets déniche chez un bouquiniste un numéro dont personne n'a jamais entendu parler. Avec en cadeau, une graine d'extraterrestre. Sa curiosité étant forte, eh bien, voilà, il la plante et la cultive. Et, vous saurez la fin en regardant justement et en lisant cet ouvrage. Et puis, on terminera ce livre avec le musée de l'homme. Longtemps après la disparition des hommes, des femmes apprennent avec nostalgie quel rôle ils jouaient auprès de leur sexe. Enfin, vous l'avez saisi, du plaisir, de la bonne lecture, du rire parfois, un texte totalement maîtrisé. Je vous engage fortement à vous pencher sur les 270 pages environ, parues aux éditions Pygmalion, 18 €. Et puis, pour ce livre, l'estomac est noué depuis la fin du premier chapitre. L'auteur confirme, sans ce contexte, son immense talent pour nous emmener dans des histoires plus qu'oppressantes. Le titre de son livre, Animal, de Sandrine Colette. Un texte puissant sur la complexe réalité qu'il peut exister dans des pays où la vie n'est pas prioritaire. Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux jeunes enfants ligotés à un arbre, qui doivent d'ailleurs, horreur, servir d'appât aux grands fauves. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Pourtant, elle ne peut se résoudre à les laisser périr de cette façon. Elle les délivre, les adopte en un sens et doit fuir avec eux vers la grande ville où ils se cacheront, où ils pourront vivre plus facilement. Mais ce n'est qu'un espoir, car la famille y règne en loi et la faim sera très présente. 20 ans plus tard, dans une autre forêt au milieu des volcans de Kachaka, débarque un groupe de chasseurs de grands fauves. Parmi eux, une jeune Française, Lior, totalement et irrationnellement exaltée par la chasse et les trophées. Voilà un mystère que son mari, qui l'idolâtre et l'adore, n'a jamais pu résoudre, lui qui déteste cela et se trouve toujours en retrait. Quand elle chasse, Lior tourne à l'étrange, son pas diffère, devient plus souple. Elle semble partie prenante de la nature, douée d'un flair affûté, elle devient dangereuse, elle devient animale. Guidés par un vieil homme à la parole rare, Lior et les chasseurs vont se lancer sur la piste d'un jeune ours. Et ici, tout semble changer. Ce dernier les a repérés et bien entendu va entraîner la jeune femme au-delà de ses limites, la forçant et l'obligeant à affronter enfin, et bien simplement, la vérité sur elle-même. Après une convalescence et un périple difficile, Lior, qui s'appelle en réalité Nem, fera connaissance avec son passé, disparaîtra et son mari n'aura de cesse de la rechercher. Assez envoûtant ce texte de 283 pages, il est paru aux éditions de Noël, 19,90 €. Une femme, un écrivain nous offre un roman riche en mouvements, en beauté et en intrigue. Son écriture tourbillonne et étincelle, touchant au cœur quand il le faut. Diane Setterfeld a étudié la littérature française à Bristol avant de se lancer dans l'écriture. Phénomène éditorial, son roman, Le 13e Conte, lui a valu une reconnaissance mondiale. Et le titre dont je vais vous parler est son troisième roman. Elle vit actuellement dans le Yorkshire. Le titre de son livre, Il était un fleuve, traduit de l'anglais par Karine Chichereau. Une auberge au bord de la Tamise, par une nuit de solstice d'hiver, quelque part au 19e siècle. Des habitués sont regroupés autour de Joé, le conteur, lorsque un étranger gravement blessé pousse la porte, portant dans ses bras une petite noyée. L'homme s'appelle Henri Dent. Il habite la région et expérimente une technique révolutionnaire, car il est photographe. La fillette morte, personne ne sait son nom. Quelques heures plus tard, Rita, l'infirmière, qui s'est rendue à ses côtés, voit que l'enfant pousse un soupir et revient miraculeusement à la vie, sans adresser une parole. Elle est muette. Doit-on parler de magie? Ou bien ce phénomène peut-il s'expliquer par la science? Mais surtout, d'où vient cette miraculée? Est-ce Amélia, la fille d'Evogan, enlevée 2 ans plus tôt, Alice, la fille de Robin, le bâtard mulâtre des Armstrong, ou bien une petite gitane du camp voisin? À moins qu'il ne s'agisse de la fille du batelier, Clétie, mort il y a quelques siècles, qui fait maintenant passer les âmes d'un côté et de l'autre de la rivière. Pendant une année, Henri, avec l'aide de l'infirmière Rita Swende, va suivre toutes ces pistes et, au nouveau solstice d'hiver, bien des mystères seront levés. À la fois contes, enquêtes et romans historiques sur les premières heures du darwinisme mêlant folklore, suspense, description atmosphérique et juste dose de romantisme, ce roman est nimbé d'une puissance et d'un aura que l'on aime dès les toutes premières pages. 480 pages environ, paru aux éditions Plon. Un texte surprenant, parfois empreint de poésie, mais demeure la dimension science-fiction où le règne animal, et plus particulièrement les oiseaux, ont une place prépondérante. L'auteur aime l'art, mentionne-t-il. Les voyages et les personnages sont transcrits souvent comme des peintures. Le titre de son livre, Le conflit, oiseaux et compagnie, par Nicolas Antoniussi. Les inspecteurs, Jules Bavure et la biche, parfois rebaptisée Corneille, enquêtent sur des meurtres dont toutes les victimes portent mystérieusement des noms d'oiseaux. À proximité des scènes de crime, on peut retrouver des météorites, plumes colorées ou insectes d'origine préhistorique et rampants. Vous l'avez saisi, beaucoup d'objets dépassant l'entendement du quotidien. Surprise aussi, car avec leur entourage, ces personnages aux allures atypiques, tel un ancien inspecteur surnommé Poisson d'Argent, réel végétarien, qui propose des barbecues de légumes, mais toujours accompagné de l'excellent vin blanc provenant d'Italie, l'agriculture biologique et voisin immédiat Cornix, habitant une maison fort isolée. Celui-ci possède une allure bien plus que surprenante, il est de petite taille, rondelé, affublé d'une tête circulaire en forme de lune et de chaussures jaunes immenses qui le font ressembler à un clown de service. Puis, cette affaire prend énormément d'importance, d'une telle ampleur qu'elle concernera tous les pays qui sont sur Terre et qui se trouvent simultanément attaqués par des êtres issus de la planète Mars. Ces derniers l'auraient quitté depuis un certain temps déjà, justement lorsque celle-ci était devenue impropre à la vie. Guerre entre hommes et martiens, et toujours ces petits oiseaux blancs et noirs qui gravitent et apparaissent lorsque des fragments de météorites touchent la Terre. 140 pages parues chez Couleur Sodium, 15 €. Pour acquérir cet ouvrage, allez simplement sur le site de l'auteur. Simple et généreux, Ici, un texte qui vous emporte sur une vie assez traditionnelle, traversée parfois par des turbulences. Marie Compagnon a toujours aimé écrire depuis qu'elle est enfant. Elle vit à la campagne et nous propose ici son premier roman, Jamais trop tard pour être heureux. Pendant de très nombreuses années, Carmélia, rebaptisée Camille par son mari, vit, perdue, en étant une femme au foyer soumise à son mari, Paul, notable de la ville, n'était rien aux yeux des autres, si ce n'est une mère de deux jumeaux et la fille et la femme d'eux. Elle aurait pu vivre cette morne vie pendant longtemps, mais un jour elle découvre que son mari la trompe avec l'une de ses collègues. Elle les suit, les surprend en flagrant délit. D'abord, perdue et anesthésiée, la barrière de sa bonne éducation vole rapidement en éclats. S'enfuyant du domicile conjugal avec sa cousine, elle part et se retrouve en Bretagne. Elle veut et doit recommencer une nouvelle vie. Approchant la quarantaine, sans avoir jamais travaillé, bien que possédant des diplômes fort élogieux en qualité de chimiste, elle doit se rendre à l'évidence, les portes se ferment, elle ne possède aucune qualification professionnelle à mettre sur son CV. Et alors, c'est une petite annonce dans le journal local qu'elle choisit. Devenir la dame de compagnie d'une vieille excentrique afin de garder son indépendance. C'est alors, par ce biais, qu'elle se retrouve face en premier temps à Anna, une vieille grand-mère revêche et acariâtre. Non sans difficulté, les deux femmes apprennent pourtant à se connaître avec des petits rituels quotidiens, des moments de complicité et de bien-être qui se mettent en place assez rapidement d'ailleurs. Ainsi, la confiance et la tendresse qui les unit va faire renaître pour chacune d'elles un nouveau message pour reprendre goût à la vie en appréciant simplement les petits bonheurs ou les petits plats que sa dame de compagnie lui prépare, en se substituant ainsi à la cuisinière qui mettait en œuvre d'aimer dans des tupperwares sans saveur et qui se ressemblaient tous. Aussi, en contact d'Anna, Carmélia réapprend la vie et surtout la phrase qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. 255 pages simples, directes, qui donnent un bon moment de lecture. Paru aux éditions City, 16,90€. Un texte original, clair et totalement passionné. Peu d'écrivains réussissent, comme Stéphanie Oppelstan, à nous transporter dans des voyages évocateurs et riches en mouvements philosophiques. Cet auteur a 20 ans, a débuté un parcours spirituel hétéroclite, New Age, bouddhisme, christianisme. Elle a voulu partager ses expériences dans deux livres témoignages et a recueilli les confidences de plusieurs personnalités. Aujourd'hui, elle nous emporte dans un roman sur un sujet qui la passionne, la vie après la mort. Le titre de son livre, La part du ciel. L'héroïne, Pauline, avait vécu avec une intuition que la mort ne sonnerait pas la fin de son voyage. À la fin de sa vie, elle s'était imaginée quitter la terre dans un épais brouillard, esquisse d'une peur qui l'expédiait dans un gouffre inquiétant. Cependant, il n'en est rien. Légère, Pauline s'envole dans un tunnel étincelant à une vitesse vertigineuse. Ici, rien de transparent. Beaucoup d'auteurs ont mentionné ces faits, mais le reste demeure plus surprenant. Au terme d'un voyage lumineux, Pauline ne peut rejoindre l'origine. Il faut revisiter ses proches pour étouffer sa propre douleur. Parviendra-t-elle à consoler les cœurs meurtris pour consentir à son propre pardon? Parviendra-t-elle à gagner l'origine? Ici, 190 pages, paru aux éditions La Bruyère, 20€. Et nous retrouvons, alors là, avec une joie immense, et ça sera la dernière présentation de notre ouvrage, l'auteur Dos Santos, pour une intrigue et un texte construit autour du puissant et mystérieux personnage arménien Kalust Gubestkian. Comme il nous l'a habitué avec ses romans toujours inspirés de faits réels, il nous plonge une fois encore dans une narration où les personnages nous emportent littéralement. Vient de paraître le premier tome. Nous attendons, il va sans dire, avec grande impatience la suite pour 2020. Le titre de ce premier tome, « L'homme de Constantinople », traduit du portugais par Adelina Pereira. Cette trame narrative nous emporte sans contexte dans une période certes difficile, mais où la volonté et l'esprit d'entreprendre de certains demeurent un leitmotiv. Quelle est cette force qui peut porter un homme jusqu'au sommet du pouvoir? Comment un jeune Arménien, né peu avant le déclin de l'Empire ottoman et les prémices du génocide, a-t-il pu devenir l'homme le plus riche du monde, régnant sur le monde naissant du pétrole pendant plus d'un demi-siècle? Et pour quelle raison cet homme d'affaires intraitable, surnommé Monsieur 5%, devient-il le plus grand collectionneur d'art de tous les temps ? Alors que l'Empire ottoman s'effondre et que les Arméniens sont persécutés par les Turcs, la famille du jeune Calouste se réfugie à Constantinople. Le garçon, déjà connu par son intelligence hors du commun, est émerveillé par la capitale du Bosphore et se pose pour la première fois la question qui allait le poursuivre toute sa vie. Qu'est-ce que la beauté ? Il ne le sait pas encore, mais pourtant, il va régner sur le monde naissant du pétrole, devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la planète, et surtout le plus grand collectionneur de tous les temps. Non sans avoir passé auparavant par les plus grandes écoles, que ce soit en France ou à Londres. Alors qu'il est sur le point de rendre l'âme, c'est à son fils que ce multimilliardaire, si secret, va tenter d'expliquer ce qu'il a toujours fait avancer. Cette question, il l'a poursuivie toute sa vie. Il se pose encore une dernière fois, qu'est-ce que la beauté ? Son fils prend alors connaissance d'un livre écrit par son père et qui lui dévoile des faits marquants de sa notoriété. Inspiré de la vie de cet homme, Kulbenskian Calouste, l'auteur nous entraîne dans un sujet à la fois géopolitique, financier et assez romanesque. Nous avons adoré ce premier tome, comme je vous l'ai mentionné. Ses pages sont absolument sublimes, très documentées, et nous attendons avec grande impatience le tome 2, Un millionnaire à Lisbonne. Et très certainement, nous attendons également l'intervention de ce auteur sur nos ondes. Je vous propose donc ces 460 pages environ qui ont paru aux éditions HEC, 22 €. Chers éditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.